Bonsoir Philippe Besson.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et voilà, nous nous retrouvons cette fois dans une pension en Italie avec vous aux éditions Julliard. Qu'est-ce que vous avez payé pour être vous-même?
Ça, c'est une question. Il y a toujours un prix à payer pour être soi. Il y a toujours un prix à payer pour conquérir sa propre liberté parfois, pour assumer son identité. Parce que pendant des années, on se cache, on se ment, on se censure, on s'auto-censure. Parfois, on ment aux autres, on offre une image qui n'est pas la nôtre. Parfois, on fait des compromis qui sont des compromissions, on fait des choses comme ça. Et puis, à un moment, notre vérité personnelle, elle finit peut-être par éclater, par l'emporter. Notre intimité surgit et on décide d'assumer quelque chose de soi qu'on n'assumait pas forcément. Et ça peut créer des dommages collatéraux aussi. Ça emporte des ruptures, bon, avec soi et avec les autres. Donc oui, il y a souvent un prix à payer, mais il y a un prix plus lourd à payer pour ne pas être soi. Ça, c'est pas mal. Mais je viens de la trouver et je me dis, j'ai bien fait de venir. Vous voyez, on va s'arrêter là. On l'a. Il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en aura pas mieux. Mais je crois ça beaucoup. C'est-à-dire, oui, le prix pour ne pas être soi est forcément plus lourd, je pense. Oui.
Est-ce que vous avez eu conscience plus jeune, en commençant à écrire, que le silence était votre personnage favori?
En tout cas, j'ai souvent dit que moi, je venais d'une enfance et d'une jeunesse de silence, qui était un silence d'abord sur les sentiments. Moi, je viens d'une famille où on s'aimait, mais on ne se le disait pas du tout. Parce qu'on était, très enquistés dans la pudeur, dans une pudeur excessive, dans une éducation qui faisait que ces choses-là ne devaient pas déborder. Donc je me souviens de ça, de ce silence familial sur les sentiments. Après, je me souviens de mon propre silence dans beaucoup de circonstances, de mon silence quand j'ai compris où mes inclinations secrètes me portaient, et un silence obligatoire, une nécessité de se taire, de ne pas dire, parce que j'avais compris que si je parlais, ça serait difficilement compris et que surtout je susciterais l'hostilité en face. Le silence aussi, je l'ai raconté dans un autre livre qui s'appelle « Vous parlez de mon fils », quand justement on reçoit des coups, des insultes, des injures ou de la violence et qu'on n'ose pas s'en ouvrir aux autres et qu'on préfère se taire et se terrer dans un mutisme parce qu'on se dit que si on parle, c'est pire encore. Le silence un peu plus tard dans ma vie quand beaucoup de ceux que j'ai aimés sont partis, ont quitté les photos. Et je ne savais pas dire le chagrin, je ne savais pas exprimer tout ce qu'on ressent quand on est face à ça, face au deuil qui nous frappe les uns derrière les autres. Et au fond, j'en suis venu à l'écriture pour contrarier ce silence, pour justement en finir avec ce silence. Je me suis dit, à un moment, il va falloir quand même poser des mots, il va falloir dire les choses. Et donc, l'écriture, c'est ça, c'est faire un sort au silence obligatoire, au silence lointain, au silence pesant, et c'est dire à un moment. Alors on essaie de dire de manière aussi, ça n'empêche pas la pudeur, on peut parler avec pudeur, avec élégance, on n'est pas obligé de crier, mais en tout cas on pose des mots.
Et dire aujourd'hui, écrire aujourd'hui, vous donne un rapport différent au silence?
En tout cas, alors il y a une dernière chose qu'il faut dire et qui est quand même pourtant contradictoire, mais qui est évidente, c'est que on écrit dans le silence. C'est-à-dire que c'est ça qui est fou, c'est que j'ai voulu parler et je parle, mais je parle en écrivant, en portant des mots sur une feuille ou sur un écran, j'écris donc dans un silence absolu, dans une solitude totale, parce qu'on ne peut pas, on écrit évidemment dans une solitude indépassable, on est absolument seul quand on écrit. Moi, je suis aussi absolument dans le silence quand j'écris. Et s'il n'y a pas le silence, je le fais dans ma tête. C'est-à-dire, si j'écris dans un lieu public, c'est comme si les conversations autour devenaient simplement un brouhaha lointain qui ne peut pas m'atteindre. C'est comme si j'étais dans une espèce de bulle. J'ai souvent dit ça, qu'en fait, je me mets dans une bulle quand j'écris. Et j'allais plus loin, j'ai dit, c'est comme une... Vous savez, une bulle dans les hôpitaux où on met les gens très malades et qui doivent être protégés du dehors et des virus du dehors. parce que si effectivement on entre dans ces chambres stériles, le malade risque pour sa vie. Et moi, c'est ça. Je crois que si quelqu'un entre dans la bulle où je suis en train d'écrire, le livre risque sa vie, risque de mourir. Personne ne doit entrer. Personne ne doit être dans ce moment-là de l'écriture, y compris la personne qui vit avec moi. Donc c'est vrai que c'est curieux de choisir de parler, mais de faire le vide absolument autour de soi pour arriver à trouver les mots. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, voilà.
Finalement, ça veut dire aussi que vous avez grandi avec ce silence et que vous êtes familier, tellement familier que c'est aussi à l'intérieur de ce silence que vous pouvez construire.
Oui, absolument.
Dans ce livre, il y a une chose qui apparaît, qui est un peu singulière, selon moi, par rapport à vos autres livres, c'est qu'il y a beaucoup de couples, entre guillemets, de binômes. Il y a beaucoup de violence, mais il y a beaucoup de tendresse.
Ah oui, il y a beaucoup de tendresse.
Il y a beaucoup il y a du sombre et il y a beaucoup de lumière. Il y a des silences, mais il y a des mots comme jamais.
Oui.
C'est un livre qui a fonctionné beaucoup, semble-t-il, par binarité.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est, je vais retenir d'abord l'idée de la lumière. Je voulais de la lumière. C'est très curieux, mais je me souviens que quand je me suis lancé dans l'écriture de ce livre-là, j'avais besoin moi-même de lumière. Je sortais de livres qui étaient un peu sombres. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu « Ceci n'est pas un fait divers » ou « Vous parlez de mon fils », qui ne sont pas exactement les livres les plus joyeux que j'ai écrits. Et moi-même, quand je me suis lancé dans l'écriture du livre, j'avais besoin de revenir au soleil, de revenir à la lumière, d'être envahi par quelque chose comme ça. Le décor italien, du coup, s'est imposé assez rapidement, pas que pour ça, mais en tout cas aussi pour ça. Et j'avais besoin de ça. Et en même temps, je savais que j'allais raconter l'histoire de quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie dans l'ombre, qui a passé une grande partie de sa vie dans le silence, et qu'il va vers la lumière lui-même, il va vers les mots. Donc il y a effectivement ce balancement qui se produit dans le livre, qui est quelqu'un qui passe du silence à la parole, qui passe de la censure aux actes, qui passe de l'ombre à la lumière, avec tout ce que ça provoque. Et effectivement, c'est un livre où on parle, ce qui n'est pas forcément toujours le cas chez moi, mais là, c'est un livre où ils se disent des choses, enfin, pour le pire et pour le meilleur, d'ailleurs, parce qu'il y a des actes, il y a des mots d'amour, puis il y a des mots de rupture, il y a des mots très beaux et des mots très durs. Mais je pense que ce qui surnage, me semble-t-il, en tout cas ce que j'ai voulu qui surnage dans ce livre-là, c'est quand même que l'amour, c'est la grande histoire de la vie et que c'est ça qui se joue ici. Donc j'avais quand même envie de raconter d'abord une histoire d'amour. Alors ça fait des dégâts, cette histoire d'amour, mais c'est quand même une histoire d'amour et une histoire de reconquête de soi par l'amour.
Et grâce à vous, j'ai regardé Sur la route de Madison que je n'avais jamais vu.
C'est pas vrai?
Ben oui.
Mais c'est la seule.
Oui,
cette femme, on ne sait pas où vit cette femme. On ne sait pas du tout. C'est très étrange. C'est très, très étrange. Alors, elle va regarder La Grande Vadrouille bientôt. Ben, c'est parce qu'on lui a parlé de La Grande Vadrouille.
Mais en fait, j'aime bien parce que figurez-vous que moi, j'ai eu le plaisir de le découvrir. Et ça, c'est toujours formidable.
Oui.
Et donc, vous revenez sur ce film, justement, à propos du moment où peut-être notre vie peut basculer.
Oui.
Et vous citez, bien sûr, ce moment incroyable où...
À la voiture, à la fin.
La voiture, la poignée, très bien. Elle y va pas. Déjà, je me suis demandé, en fait, quelle est la proportion des gens qui se disent « reste » et ceux qui se disent...
Mais ça, c'est drôle, parce que moi, j'étais persuadé que tout le monde se disait qu'évidemment, on avait envie qu'elle baisse la portière, la poignée de la portière, et qu'elle ouvre la portière et qu'elle aille rejoindre Clint Eastwood. Et en fait, j'ai été surpris de pas mal de gens me disent « Ben non, c'est normal qu'elle baisse pas la poignée. »
Vous pouvez lever la main ceux qui pensent qu'il faudrait qu'elle sorte.
Ça, c'est quoi la question? Qu'est-ce que tu as dit comme question?
Qu'elle parte avec Clint Eastwood.
Ah, c'est pas la majorité quand même.
Levez la main ceux qui pensent qu'il faut qu'elle reste.
Dans la voiture.
Qu'elle a construit.
Ah,
vous êtes moins nombreux.
C'est partagé. Mais bon, c'est quand même partagé.
Je vous
pose... Oui, parce qu'il faut quand même dire, parce que peut-être que quelques-uns parmi vous n'ont pas vu Sur la route de Madison et rejoignent Sylvie dans ce drame épouvantable de n'avoir pas vu. On explique, parce que c'est évoqué dans le... Alors d'abord, c'est un exergue du livre, et ensuite...
Maintenant, vous êtes dans une soirée cinéma.
Voilà,
on va basculer.
Et c'était aussi une séquence du livre. C'est qu'en fait, donc, Sur la route de Madison raconte... les quatre jours vécus par une mère de famille qui est jouée donc par Meryl Streep dans le film, qui s'appelle Francesca, qui est d'origine italienne et qui se retrouve seule dans sa maison pendant quatre jours parce que son mari et ses enfants sont partis faire une foire aux bestiaux. Et pendant qu'elle est seule pendant ces quatre jours, un photographe arrive, qui est joué par Clint Eastwood, parce qu'il vient photographier les ponts de Madison. Et comme il ne connaît pas l'endroit, il lui dit « Est-ce que vous pourriez m'aider ?» Elle accepte de l'aider. Et évidemment, cette rencontre va bouleverser beaucoup de ses certitudes. Et elle va entrer dans une passion pendant les 4 jours avec Clint Eastwood. Et elle va redécouvrir son corps, redécouvrir sa sensualité et se rendre compte qu'il y a des possibles, qu'il y a d'autres possibles que la vie de famille dans laquelle elle est, parce que certes, elle aime son mari et ses enfants, mais c'est vrai que tout d'un coup, s'ouvre une espèce d'aventure avec un personnage incroyable, etc. Et à la fin du film, donc le mari vient de revenir de la foire aux bestiaux, elle est dans la voiture à la place du mort, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, et son mari est parti faire une course, il doit revenir, et tandis qu'elle est dans la voiture, Clint Eastwood arrive face à la voiture, et d'un regard l'implore de le suivre, quoi, de dire « est-ce que tu veux venir ?» Et elle a un choix, donc, qui est de mettre la main sur la portière, d'ouvrir la portière et de suivre Clint Eastwood sous la pluie. La pluie, vous voyez ce que c'est ou pas?
Vaguement.
Si je ne sais pas, je me demandais, parce que je voulais être sûr que la pluie était... Ouais. Il n'a pas plu aujourd'hui, ce qui était quand même la première fois depuis 1993.
Non,
oui. Donc, il est sous la pluie, et donc elle a baissé la poignée de la portière et le suivre, ou... effectivement, attendre que son mari revienne et rester dans la voiture. Et elle choisit de rester dans la voiture. Et donc, c'est un des choix, évidemment, qui se pose, un choix existentiel, qui se pose à l'un des deux personnages principaux du livre, à Paul Viersack, parce que Paul, il est aussi quelqu'un qui va se retrouver à un moment à devoir mettre la main sur la poignée d'une portière, si on peut dire, ou d'une chambre, et qui va décider de le faire ou de ne pas le faire, en tout cas. Ça m'intéresse, ce genre de choix, mais dans ce livre-là, comme dans d'autres, beaucoup de mes livres sont construits sur ces moments de bascule, sur ces moments de vérité. Beaucoup de mes personnages sont confrontés à un moment, à une situation où ils doivent prendre une direction, ou une situation qui leur fait prendre une direction. Quand j'écris « Arrête avec tes mensonges », c'est un moment de ma vie où tout change. Si je ne vis pas cette histoire-là qui se passe en 1984... à Barbezieux, je ne suis pas l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, il y a des moments dans une vie qui nous façonnent, qui nous fabriquent, qui nous forgent, qui nous emportent dans une direction, et ou pas. Mais en tout cas, voilà. Et beaucoup de mes livres sont construits sur ça, ces moments de vérité, ces moments de bascule. Bon. Et Paul,
votre grand-père,
voilà, le grand-père du narrateur, oui. Voilà. Il est effectivement dans cet état, été 64 en Toscane, confronté à ce choix existentiel. Qui est en plus d'un choix existentiel, un choix sacrificiel. C'est-à-dire qu'il sait que s'il fait ce choix-là, parce que non, tout choix emporte un sacrifice aussi, ou tout choix emporte un renoncement, il sait qu'il va faire un choix et que c'est soit renoncer à lui-même, soit renoncer à sa famille.
Mais au fond, des choix dont on a pleinement conscience, des choix graves, comme celui-là ou comme celui de Meryl Streep, sont assez rares. Il y a plus de choix.
Pas.
Ah bon, il y a plus de choix qu'on fait instinctivement sans même s'en rendre compte, non?
Ah oui, non, mais il y a des choix, il y a des choix minuscules, ou il y a des choix ordinaires, ou des choix logiques dans une existence. Il y a évidemment choisir de se marier, choisir d'avoir des enfants, c'est pas des choix minuscules, mais c'est des choix auxquels on sait qu'on va être confronté à un moment ou un autre dans sa vie. C'est pas des choix inattendus.
Alors,
tu sais, choisir son métier, choisir la ville où on va vivre, le pays, choisir la maison ou l'appartement dans lequel on va habiter, tout ça, c'est des choix qui nous construisent et qui emportent une partie très importante dans nos existences. Bien sûr. Et on est fabriqué par ces choix-là, qui sont la plupart du temps des choix conscients, des choix volontaires. Bon. Mais je crois aussi que beaucoup de nos vies sont décidées par des éléments extérieurs, exogènes, sur lesquels on n'a à peu près aucune prise, qui relèvent pour la plupart du temps du hasard ou de l'incident ou de l'accident ou de l'événement imprévisible ou de l'impondérable et qui vont nous emmener dans une direction. Enfin, je veux dire, si un jour on vous apprend que vous êtes malade et peut-être condamné, vous ne l'avez pas décidé. Et ça change le cours de votre vie. Quel qu'en soit l'épilogue, soit vous mourrez de cette maladie et ça change irrémédiablement le cours de votre vie, soit vous réchappez à la mort promise et votre vie après ne sera jamais plus la même qu'avant, ça je vous assure. Donc il y a cette idée-là. Il y a à un moment, on est dans des situations qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas décidé et qu'il va falloir qu'on gère ou pas. En tout cas, on va essayer de faire ce qu'on peut. et qui décideront de qui on devient. Et moi, j'ai l'impression que ma vie, elle a été, pour une large part, je l'ai écrit quand même dans pas mal de livres, mais décidée par d'autres et décidée par des hasards et des contingences sur lesquelles j'avais pas de prise. Et ou parfois, effectivement, par des choix fondamentaux. Par exemple, on revient à l'écriture. Moi, il se trouve qu'au moment où je décide d'écrire mon premier livre, je suis engagé dans une vie qui est une vie très confortable, très rassurante. Je gagne très bien ma vie. Je fais un métier qui me convient à peu près. Enfin, je suis pas du tout malheureux dans ma vie professionnelle à ce moment-là, pas du tout. Ça serait facile de dire aujourd'hui j'étais triste comme là, pas du tout. Et il y a ça qui est que j'ai le désir absolu d'écrire, de raconter des histoires. Et donc, vous êtes devant un moment. Moi, en tout cas, à ce moment-là, je me dis, est-ce que je renonce au confort, à la tranquillité, au destin qui m'est promis, à une sécurité de l'emploi, à une vie extrêmement confortable, pour écrire des livres ce qui veut dire, effectivement, choisir une forme de précarité, d'incertitude, je ne sais pas quoi, bon. En tout cas, vous ne dépendez plus que du désir des autres, des lecteurs, des lectrices, bon, et ou d'un éditeur, et ou pas. Et en même temps, moi, si je ne l'avais pas fait, j'aurais sans doute regretté toute ma vie de ne pas l'avoir fait. Je suis un homme perclus de regrets aujourd'hui en me disant, mais pourquoi, au moment où je pouvais le faire, je ne l'ai pas fait. Bon, donc j'ai décidé cette bascule, mais je me souviens que quand je la décide, il y a des gens autour de moi, à commencer par mon père, qui me disent que je fais une erreur grave, que je me trompe. Je comprends qu'ils me disent ça, mon père. Mon père, c'est un homme qui avait l'envie que ses enfants soient protégés, comme tous les pères, tous les parents. Et il avait l'impression que je m'offrais aux 80 et que je m'offrais justement à l'insécurité, à l'incertitude. Et aucun père, aucune mère n'a envie que ses enfants soient offerts à ça. Et donc, lui n'a pas du tout vécu ça comme une libération, comme une émancipation, comme un affranchissement, comme une conquête, ou je ne sais pas quoi. Il a vécu ça comme un drame. Et donc oui, mais à ce moment-là, vous le faites ou vous ne le faites pas.
Qu'est-ce qui vous a décidé à le faire?
Parce que c'était impossible de ne pas le faire, en fait. Il y a un truc de cet ordre-là, c'est-à-dire que il m'a fallu du temps pour y aller, parce que c'était là depuis déjà longtemps, c'était souterrain, c'était implicite, c'était, en tout cas, ça me travaillait, mais j'avais pas franchi le pas pour les raisons justement qui tenaient à ça. Ma vie était tranquille, je savais ce qu'on attendait de moi, bon, très bien, mais j'avais ce désir profond de raconter des histoires, d'inventer des personnages, d'être seul à la table d'écriture et de fabriquer des mondes. Et je me suis dit, je vais essayer un jour de le faire. Et en fait, les circonstances, là aussi, l'ont permis. C'est-à-dire que peut-être que si ces circonstances ne sont pas réunies, je n'y vais pas. Parce qu'à ce moment-là, je vis à l'étranger. Donc, il y a l'idée de ne pas être sur mes bases, sur mon territoire familier. Je suis loin, je suis au Canada. Je suis dans le décalage horaire, donc ça aide. C'est-à-dire que vous n'avez pas de lien véritable avec votre pays d'origine, là non plus. C'est-à-dire que vous êtes obligé, bon, quand il est le matin à Montréal, c'est fini ailleurs. Bon. Et donc l'idée, c'est que je suis dans le décalage horaire, et par ailleurs, je viens de sortir d'une rupture sentimentale qui m'a laissé par terre. Donc, je suis vraiment à ramasser à petite cuillère, parce que j'ai un garçon très sensible. Et ça n'a pas changé. Et donc, j'en ai fait des livres maintenant. Je me suis dit, faut que ça me serve à quelque chose quand même. Et l'idée, c'est que cet ensemble-là fait que je décide de me lancer. Je décide d'y aller. Sauf qu'à l'instant exact où je commence à écrire la première phrase du premier livre, puis le premier livre, etc., je me dis, c'est ça. C'est-à-dire, c'est moi. C'est mon identité. C'est ma verticalité. C'est quelque chose de. C'est exactement là où je dois être. C'est exactement ce que je veux être. C'est-à-dire que c'est plus quelque chose que je vais faire. Je fais quelque chose dans ma vie. C'est quelque chose que je vais être. Je vais être ce type qui écrit, qui invente des histoires. Et je suis dans un tel éblouissement et ça me transporte tellement que je me dis, après avoir fini le premier livre, que comment je pourrais renoncer à cette extase-là d'avoir réussi à écrire un livre. Et donc je continue parce que je veux pas renoncer à ça. Voilà. C'est comme ça que ça se passe.
C'est de ça dont il est question dans ce livre-là, puisque vous dites que c'est très difficile de retourner d'où on vient une fois qu'on a pris un choix et qu'on se rend compte qu'on est bien, puisque dans ce livre-là, vous revenez sur votre histoire indirectement, mais il y a quand même de ça, puisque à un moment donné dans le livre, vous dites, bon, alors à partir de maintenant, j'invente.
Oui, donc, il faut raconter, il faut dire quand même les choses.
Vous jouez un petit peu avec nous.
Oui, ah bah oui, ça c'est volontaire. Oui, oui.
Voilà, nous sommes avec vos grands-parents.
Oui.
Qui se rencontrent.
Les grands-parents du narrateur, oui.
Voilà, à la poste, oui. Voilà. Et puis nous sommes après avec un personnage qui pourrait être fortement inspiré de votre maman.
Oui.
Voilà. Et puis nous sommes après avec vous, l'écrivain à sa table, qui reprend cette histoire et qui écrit sur un secret familial et ce qu'il a changé, induit, et ce qu'il aurait pu être autrement, etc. Et dont cette phrase dont vous dites qui rejoint ce que vous êtes en train de nous raconter, c'est-à-dire que une fois qu'on a pris goût à quelque chose qui nous semblait évident, il est impossible.
On peut pas revenir en arrière.
On peut pas revenir en arrière.
Oui, parce que c'est vrai que d'abord le livre effectivement il est construit presque comme une enquête, c'est-à-dire qu'effectivement c'est cet écrivain qui ne m'est pas complètement étranger, qui part sur les traces de quelqu'un qui s'appelle Paul Virsac, qui part en Italie, d'où le génie du titre. Vraiment des heures de réflexion pour arriver à un titre pareil. Parce que c'est des gens qui partent en vacances dans une pension en Italie. On voit le type qui a cherché longtemps. Le type.
Oui, oui.
J'avais écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait Paris-Briançon et ça parlait des gens qui prenaient un train entre Paris et Briançon. On voit que je vais les chercher assez loin, les titres. Et donc, bref, effectivement, donc cet écrivain part sur les traces de son grand-père qu'il n'a pas connu. Parce que son grand-père a disparu de l'album de famille après des vacances passées en famille au cours de l'été 64 dans cette fameuse pension. Et moi, je voulais construire le livre comme une enquête. C'est-à-dire, c'est lui qui d'abord pose des questions à sa mère pour essayer de comprendre ce qu'on lui a caché. Pourquoi quelqu'un n'est plus dans l'album de famille? C'est quand même curieux. Vous feuilletez un album et vous voyez bien qu'il y a un manquant, bien quelqu'un qui n'y est pas. Donc, vous posez des questions, puis on ne vous répond pas, et vous comprenez que parce qu'on vous répond pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la volonté de ne pas répondre, et qui est aussi peut-être de l'ordre de la honte, ou en tout cas de l'inconfort, de l'embarras. Bon, donc il pose des questions, puis il n'a pas de réponse, et puis finalement il repose des questions, puis il a des bribes, donc il commence à tirer un fil, et puis finalement il se rend sur place des années après. En se disant peut-être qu'en me rendant sur place, je vais trouver des indices et des témoins qui vont fournir des réponses aux questions que je continue de me poser.
C'est là que vous êtes complètement schizophrène, puisque donc vous allez en Italie.
Et je vais en Italie sur place. Voilà, ça va
comme
lire,
votre comme votre narrateur.
Absolument.
Ce qui est fou.
Et le jeu que fait le narrateur avec le lecteur, c'est qu'en fait, ce narrateur va vous dire, alors là, ce que je vous dis, je sais que c'est vrai, parce que ça, c'est techniquement vrai, c'est prouvé. Je sais qui est Paul Virsac, il est vraiment né à ce moment-là, etc. Bon, très bien. Et puis à d'autres moments. Ce narrateur dit « Ben là, je ne sais pas, parce que évidemment, il essaie de remplir des blancs. Et donc, quand il remplit des blancs, il est obligé de spéculer par moment, de former des hypothèses, de dire « ça s'est peut-être passé comme ça ». Et donc, le narrateur vous prend un témoin en disant « bon, ben là, je vous le dis, j'invente. Je ne sais pas, donc j'invente ». Et puis après, comme évidemment, il est un peu pervers, ce narrateur, c'est pour ça que c'est pas moi. Il dit, oui, enfin, je vous ai dit que j'inventais, tu parles. En fait, c'est pas du tout inventé, parce que je sais que c'est vrai maintenant, parce que j'ai réussi à trouver la réponse aux questions que je me posais. Et donc, il y a toujours ce jeu. Mais moi, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré que les livres étaient écrits au moins autant par ceux qui les lisaient que par ceux qui les écrivent. Et que le livre, c'est un dialogue entre l'auteur et le lecteur. Moi, je ne suis pas en surplomb, je ne suis pas quelqu'un qui donne quelque chose et puis débrouillez-vous. Je raconte une histoire, je donne des indices et j'espère que le lecteur, la lectrice va tirer le fil avec moi. C'est-à-dire qu'il va se dire, mais où est-ce qu'il m'emmène? Qu'est-ce qu'il veut dire là? Qu'il va lui-même former des hypothèses en disant, c'est sans doute ça qui est arrivé, ça doit être ça le secret. Bon, très bien. Et donc, j'aime bien cette idée qu'on phosphore avec moi. Et j'aime bien aussi l'idée que d'emmener les gens dans la géographie dans laquelle je mets toujours mes intrigues. Donc là, j'ai besoin que les gens soient dans la pension de famille, qu'ils soient en Toscane avec moi, etc. Comme dans Paris-Briançon, ça ne marchait que si vous montiez dans le train. Si vous montez dans le train, c'est fini, c'est gagné. Et donc, tout mon problème, c'est de vous faire monter dans le train. Et ça m'intéresse de faire ce dialogue-là, parce que tout d'un coup, évidemment, le lecteur, il lit le livre autrement. Et il le lit aussi avec... ça fait écho à sa propre intimité, toujours. C'est-à-dire qu'évidemment, j'ai raconté cette histoire, mais ceux qui lisent Ils pensent à leur propre secret de famille, ils pensent à ce qu'on a caché dans leur territoire familial, leur territoire intime, ils pensent à ce qui n'a pas été dit ou ce qui a été transformé, ils pensent aussi effectivement aux regrets et aux remords, c'est-à-dire aux vies qu'on a choisies, aux vies qu'on n'a pas choisies, au moment où on est allé d'un côté ou pas de l'autre, et chacun a été confronté à ces situations-là. Donc c'est pour ça que le livre renvoie évidemment chacun à sa propre intimité, à ses propres questionnements, à ses propres désirs ou à ses propres remords. Bon, ça m'intéresse, c'est ça le livre, toujours.
Oui, et puis ça nous renvoie aussi à la question qu'on aurait pu poser, mais qu'on n'a jamais posé, qu'on n'a jamais osé poser. Ça nous renvoie, comme vous le disiez tout à l'heure, au choix qu'on a fait dans la vie. Mais il y a une question qui est intrigante pour moi, c'est que ce livre revient donc très indirectement, avec des énormes guillemets, sur votre vie personnelle, Philippe Besson.
Énormes guillemets.
Et en même temps, ce livre est très joyeux.
Ah mais oui.
Ce livre dégage une joie d'écriture, déjà, et puis un certain plaisir.
Ah mais moi je voulais, c'est ce que je disais, d'abord il y avait cette idée de la lumière, ça j'y tenais absolument, donc je voulais un truc solaire, un truc lumineux, je voulais qu'on chante la chaleur, je voulais qu'on sente la Toscane vibrante d'un été caniculaire, je voulais qu'on la voit d'ailleurs cette Toscane, je voulais qu'on voit les champs d'oliviers, les allées bordées de cyprès, les villages perchés en haut des collines, je voulais qu'on voit quand on est à Florence les murs des églises ou les dômes, je voulais quand on est à Sienne qu'on voit la grande place penchée, je voulais qu'on sente la pierre blonde. Je voulais même qu'on sente aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui cuisine dans ce livre. Je voulais qu'on sente la bouffe, que qu'on ait envie de manger aussi. Donc ça passe par la sensualité, la sensorialité, ces choses-là. Ça c'était très important pour moi. Il fallait que ça soit ça, sensuel, solaire. Donc voilà. Et puis encore une fois, je voulais raconter quand même l'histoire d'un amour. D'un amour qui surgit au moment où on s'attend le moins à ce qu'il surgisse et qui va devoir être vécu dans la clandestinité, dans l'urgence, dans la nécessité, dans tout ce qu'on veut. Bon. Donc il y avait ça. Et puis, c'est aussi, c'est un mot que j'emploie, je crois, dès la deuxième page, un livre de réparation. C'est-à-dire, on répare une injustice, on répare un silence, on répare, je sais pas quoi, une vie passée sous les radars, quelque chose. Et donc, il fallait qu'on aille vers cette idée de la réparation. Et c'est pour ça que la dernière phrase du livre, alors, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je vous demande de ne pas lire la dernière phrase du livre avant d'être arrivé à la dernière phrase du livre. Mais il fallait que ça soit comme quelque chose qui dise « on est bien ». Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, je voulais qu'on fasse cette trajectoire-là, alors que le chemin est heurté, alors que il y a plein de questionnements, les questionnements de Paul, parce que Paul, il est évidemment traversé par beaucoup d'interrogations existentielles. Évidemment, les questions de Gabi, sa femme. Évidemment, la question des filles, Suzanne et Colette, qui se disent « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive ?» Il y a plein de gens qui sont quand même ballottés, qui sont comme sur un ring de boxe, où de temps en temps, on leur envoie des coups, ils tombent, il faut se relever. Bon. Mais à la fin, tout fait sens. Et à la fin, tout le monde comprend où était sa place. Et donc, c'était important pour moi d'aller vers ça. Donc oui, je pense qu'il y a une forme de, sinon de joie, mais en tout cas de sensualité et d'accomplissement et d'émancipation. Voilà.
Mais au fond, on sait bien que vous êtes un écrivain du sensible. Ça, ça ne nous a pas échappé. Mais au fond, ce livre, plus que les autres encore, ce que ça raconte, c'est que le nerf de la guerre pour vous, Philippe Besson, c'est l'amour. Et que c'est ça aussi, la lumière.
Ouais, d'abord j'ai beaucoup écrit sur cette question, là, en tout cas du lien amoureux ou du lien affectueux ou du lien fraternel ou du lien que ça. J'aime cette idée de qu'est-ce qui se passe quand vous mettez deux personnes face à face et que il y a une réaction chimique qui se produit. C'est quoi cette réaction? Bon, très bien, ça m'intéresse et ça m'intéresse quand en plus vous mettez face à face des gens qui n'auraient pas dû se trouver face à face. Et qui tout d'un coup se trouve débordé par les sentiments, quelque chose qui les rattrape, qui les submerge, voilà. Ce qui est vraiment le cas dans ce livre-là, c'est que tout d'un coup c'est quelqu'un qui ne s'attend à rien, qui est venu là juste pour passer des vacances avec sa famille et qui se retrouve face à un sentiment qu'il ne s'attendait pas à éprouver. Et donc oui, la grande histoire de la vie, ça reste quand même l'amour. C'est Fanny Ardant qui dit ça très bien, avec cet accent, c'est la grande histoire de la vie, c'est l'amour. Elle m'avait dit ça un jour, parce que je me disais que c'était bien. Quand elle l'avait dit, j'avais trouvé ça bizarre, et après je me suis dit, c'est elle qui a raison. Et donc oui, je raconte des histoires comme ça, c'est pas mal.
Vous êtes romantique ?
Romantique, oui. Je ne sais pas si je suis romantique, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, je suis convaincu que le sel de la vie, c'est les rencontres et c'est les liens. C'est-à-dire, et les liens qu'on choisit aussi. Je suis convaincu que ce qui fait sens, en tout cas pour moi, c'est les êtres, c'est les gens. C'est pas voilà. Et donc, et ce qui se passe quand vous rencontrez quelqu'un, et ce moment où tout d'un coup ça vous déborde, ça vous dépasse, ça oui, je crois que c'est des choses qu'on recherche quand même. Ouais.
Vous parliez de réparation. Il y en a plusieurs dans ce livre, et il y a quelque chose d'assez émouvant, je trouve. C'est le fait que vous exposiez les corps dans une époque où
on les expose pas, oui.
Le plaisir est interdit autant pour les femmes que pour les homosexuels, finalement.
Oui, oui.
Et où, de toute façon, il doit rester dans l'alcôve, pas être visible.
Oui, parce que effectivement, il faut se dire que donc ça se passe pendant l'été 1964, et c'est vrai que rétrospectivement, quand on pense aux années 60, on voit ça comme des années joyeuses, formidables, de grande insouciance, de grand épanouissement. C'est des années glorieuses. C'est cette jeunesse qui danse le rock et le twist, etc. C'est en Italie les années de Fellini, de Vittorio De Sica, de Dino Rizzi, de Sofia Loren, de Gina Lollobrigida. Donc on se dit c'est formidable, et la Dolce Vita. Et ça a été cela aussi, bien sûr, les années 60. Donc c'est des années d'ouverture, d'émancipation. Et en même temps, c'est des années d'abord qui suivent des années sombres, des années noires, des années où la reconstruction n'était pas terminée, des années où effectivement le poids de la religion restait important. Et en Italie, pas qu'en Italie d'ailleurs, c'est les missels dans les commodes, dans les chambres, c'est les Christs au-dessus des lits. C'est le poids de l'éducation, c'est le poids de la tradition qui reste. Et c'est effectivement l'idée que les corps, ça n'exulte pas. Il n'y a pas de contraceptif véritable à ce moment-là. Enfin, l'avortement, évidemment, n'est pas autorisé. Donc, quand les filles tombent enceintes à 18 ans, elles épousent les garçons qui les ont mis enceintes, ce qui arrive dans le livre à Suzanne. C'est une époque où, par exemple, on a quand même oublié, mais les femmes n'ont pas le droit de signer un chèque sans l'aval de leur mari. Des femmes n'ont pas le droit de signer. On regrette, évidemment, cette époque. On a beaucoup perdu, Éric Zemmour vous le dirait. Et donc, c'est ça. Et on parlait d'homosexualité aussi. C'est une époque où l'homosexualité est pénalisée. C'est-à-dire, je rappelle que jusqu'en 1982, en France, l'homosexualité est pénalisée. Il y a une scène dans le livre où, effectivement, un type finit en prison, est embarqué dans un fourgon de gendarmerie. Et d'ailleurs, je rappelle que jusqu'en 1990, l'homosexualité restera classée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, comme une maladie mentale. 1990.
C'est-à-dire hier.
Voilà. Donc on est quand même un peu... Donc on voit d'où on vient. Et donc cette famille-là, elle se retrouve effectivement à vouloir profiter de cet été, des vacances, de la vie, etc. Bon, ça. Mais elle est dans un cadre très corseté, très normé, très normatif, très traditionnel, où l'éducation qu'on a reçue, ça continue de porter très fort, de porter sur les épaules. Et donc, on pourrait considérer que Paul et Gabi, qui sont donc le père et la mère, ils sont tous les deux, à des titres divers, ancrés dans cette espèce de truc très solide, très bon. Et l'un et l'autre, de manière très différente, vont faire sauter ces carcans-là. Paul, effectivement, parce qu'il fait une rencontre inattendue, et Gabi, parce qu'elle prend une décision incroyablement courageuse. Enfin, elle prend une décision qui... Voilà, on va pas en dire plus, mais qui a une décision d'affranchissement incroyable. Bon, très dure, mais il faut la prendre quand même.
Oui, oui.
Et donc c'est vrai que ça m'intéressait de montrer ces êtres qui n'étaient pas dans une période où on prenait... Et à un âge, parce qu'ils ont 40 ans, ils n'en ont pas 20. Hein. C'est pas des jeunes gens qui peuvent tout se permettre. C'est des gens ancrés dans une vie déjà solide. Une famille, deux filles, bon. Et ils vont effectivement envoyer, valdinguer, et l'un et l'autre, pour des raisons différentes, tous les schémas. Et ça, ça m'intéresse parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'incroyablement courageux et en tout cas rare, voilà, à ce moment-là. Et c'est aussi pour ça que l'écrivain il part à la recherche de la vérité, parce qu'il se voit, il voit bien qu'il s'est passé quelque chose dans cette période où les gens ont envoyé valdinguer les conventions. Et ça, ça lui plaît à l'écrivain que quelqu'un dans sa famille, longtemps avant lui, est envoyé valdinguer les conventions. Il voit bien que c'est ça qui s'est produit. Parce qu'il se sent héritier aussi de ça, cet écrivain. Il se dit, moi-même, ayant un petit problème avec les conventions, ça m'intéresse d'aller comprendre ce qu'ils ont fait. Comment ils ont conquis leur liberté, comment ils se sont conquis eux-mêmes. Bon. Et donc, c'est ça la quête qu'il mène aussi, indépendamment de la quête de ses origines. C'est la quête d'une liberté qu'on n'imaginait pas chez ces gens-là à ce moment-là.
Et donc lui, il a du plaisir à écrire sur ces corps qui peuvent exister et apparaître enfin, oui. Maintenant.
Je voulais que ça soit un livre sensuel, hein. je voulais que ça couche, quand même. Oui, quand même. Et c'est d'ailleurs la couverture du livre, c'était ça, c'était de dire, il faut qu'on sente le soleil de la Toscane, les paysages toscans, mais qu'on sente une chambre. Il fallait, parce que tout ça se passe dans une pension en Italie, titre génial, je rappelle. Et donc, il fallait qu'on sente les persiennes à demi fermées,
le désir,
le lit et les corps et le désir, la bascule, l'idée qu'à un moment, on y va et qu'on redécouvre, là aussi, c'est le lien avec Sur la route de Madison et Francesca. C'est que tout d'un coup, Francesca, elle se rend compte qu'elle a un corps. Et Paul, il va se rendre compte qu'il a un corps, qu'il est aussi cet homme de sensualité, cet être-là. Mmh. Et il va être très désemparé. Il va être dans une forme de désarroi complet. Mais en même temps, il a tellement pris de plaisir à ça. Et en même temps, c'est le plaisir coupable. C'est toujours ce qui va avec. C'est-à-dire qu'il se sent coupable d'avoir éprouvé ce plaisir-là. Mais en même temps, il a envie d'y revenir. Bon. Et donc, moi, j'aime cette idée, oui, que tout d'un coup, ce qui passe par le corps, par la sensualité, par le sexe, par le plaisir, ça renvoie évidemment à ce qu'on est soi. C'est-à-dire que est-ce qu'on accepte ça? Est-ce qu'on accepte d'y voir une émancipation? Est-ce qu'on décide qu'on éloigne la culpabilité et qu'on se dit bah merde, oui, c'est bien quand même. Et donc toutes ces questions, elles sont là, oui, dans le livre. Oui.
Est-ce que c'est ce narrateur finalement, en repartant sur les traces de sa famille, en découvrant voilà, un peu plus sur ce secret, en s'autorisant à écrire, est-ce qu'il est surpris par cette famille qui est la sienne?
Je pense qu'il est à la fois... je pense qu'il y a de la surprise, parce qu'il se dit quand même, c'est incroyable ce qui s'est passé à ce moment-là, dans cette vie-là. Je pense que... c'est des hypothèses qu'on n'aurait pas pu forcément former. Et d'ailleurs, on voit bien que sa mère, Suzanne, celle à qui il a essayé de tirer les vers du nez et qui ne les a pas fait, elle n'a pas réussi à voir les choses alors qu'elle les voyait. Parce que c'était au-delà de son entendement. Il y avait quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, pas imaginer ce qui se passe. Bon. Et donc, lui, il reste surpris que ses grands-parents aient manifesté ça, ce tempérament-là, qu'ils aient envoyé tout valdinguer, que tout ait explosé à ce moment-là. Et en même temps, je pense que c'est ce qu'il attendait. Je pense que ce qu'ils voulaient, c'était la confirmation qu'ils avaient bien ça, qu'ils avaient bien osé, qu'ils avaient bien eu cette audace, cette folie. Et donc, il est surpris et rassuré et réconforté. Et surtout, encore une fois, c'est la quête de ses origines, la quête d'une hérédité. C'est-à-dire qu'il se dit, au fond, je ne suis pas le petit-fils de cet homme-là pour rien. Je vois bien ce que je tiens de lui. Au fond, c'est comme si tout d'un coup, il se sentait lui-même autorisé dans sa propre vie à user de la liberté, en se disant, puisque ceux qui m'ont précédé ont eu cette audace folle, je peux bien moi aussi me l'autoriser. Et donc, c'est comme si des années après, quelqu'un lui disait, t'as raison d'être celui que tu es. Et je trouve que c'est beau, je voulais ça aussi, qu'il y ait cette espèce de passage de témoin entre le petit-fils et le grand-père, et qu'ils se disent, c'est comme si des années après, le petit-fils recevait le message qu'il attendait de cet homme-là, qu'il n'a pas connu. Et il y a aussi une phrase qui est prononcée à un moment par un personnage qui est très important dans le livre, qui s'appelle Sandro. Et le petit-fils rencontre Sandro. Et Sandro dit cette phrase qui moi, je trouve sublime et déchirante. Il dit « Nous avons attendu si longtemps que quelqu'un vienne. » Nous avons attendu si longtemps que quelqu'un vienne. C'était comme s'ils avaient besoin d'une sorte de validation et que ça avait jamais, c'était jamais arrivé. Et là, tout d'un coup, le petit-fils arrive et c'est comme si c'était une façon de valider tout ça. Mmh. Et lui-même, évidemment, ce petit-fils, il est heureux parce qu'il se dit « Moi-même, je trouve dans cette rencontre-là ce que j'attendais. » Et donc, c'est ça, ce livre. C'est l'idée que tout le monde va finir par trouver son compte.
Mais au fond... Votre livre s'attache à quelque chose de très touchant dans l'hérédité, alors que c'est un sujet en général qui n'est pas abordé de cette façon-là.
Hein. Non, puis surtout qui est cruel. C'est-à-dire que souvent, quand on cherche à démêler les fils d'un secret de famille, on trouve des choses pas forcément reluisantes, on trouve des choses pas forcément sympathiques. Souvent, les secrets de famille sont associés à on va ouvrir une armoire et trouver un cadavre. On va ouvrir des livres et trouver des choses qu'on n'avait pas envie de savoir. On va trouver un passé pas glorieux. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. On découvre que son grand-père ou sa grand-mère ou son arrière-grand-père n'a pas été exemplaire pendant l'occupation, par exemple, etc. Bon, dans le sublime livre de Laurent Mauvignier, oui. Personnage de la grand-mère, qui est pourtant un personnage admirable et sublime. Enfin, on adore sa grand-mère, mais ben,
oui.
On ne peut pas dire que... ce qu'il découvre sur elle soit forcément ce qu'il avait envie de découvrir. Bon, et donc il y a cette idée que souvent, bon, quand on et quand soi-même on part à la recherche des choses, enfin, vous voyez, je dis toujours, il faudrait pas faire des tests ADN hein, parce qu'on n'est pas tout à fait certain que tiens, mon père n'est pas mon père. Bon. Et donc d'ailleurs, si on faisait des tests ADN dans cette famille-là, bon, enfin, ça, c'est autre chose. Et donc en fait, c'est souvent associé à quelque chose, évidemment, d'un peu crapoteux, d'un peu crapuleux, d'un peu je sais pas quoi, bon, d'un peu sombre, d'un peu terrible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fermé le couvercle. C'est pour ça qu'on a tué les choses, parce qu'on a eu honte, parce qu'on veut pas porter ça, cette chose noire. Bon. Et moi, au fond, bien sûr que c'est aussi une chose noire pour eux. Bien sûr que pour Gabi, c'est une chose terrible. Mais d'ailleurs, elle invente une histoire, enfin, elle raconte une autre histoire pour à la place de, enfin, elle recrée une histoire officielle. Bon, mais moi, justement, je voulais dire à la fin que non, qu'il fallait pas avoir honte de tout ça parce que ça méritait d'être raconté, ça méritait d'être assumé tout ça. Il y a aussi des secrets qui sont des beaux secrets.
Et votre livre rejoint vos livres précédents sur la question de la place. À cet endroit-là, vous écrivez, Philippe Besson, sur, on le disait en préambule, sur le prix qu'il faut payer pour être soi-même, c'est une chose, mais aussi sur la clandestinité, l'énergie qu'il faut pour trouver sa place dans un monde ou une époque qui ne veut pas forcément de vous. Il y a un autre personnage dans ce livre qui s'appelle Madeleine, voilà, qui est un personnage clandestin, là, pour le coup, qui est une jeune femme qui va rentrer en résistance, qui est aussi de cette famille. Mais ce mot clandestin résonne quand on lit votre livre, quand même, sur voilà, l'énergie qu'il faut pour trouver sa place.
Oui, c'est-à-dire que y a souvent ça dans mes livres, des gens qui se sont cachés, qui se sont censurés, qui se sont tus, qui ont joué un rôle, qui ont joué le rôle qu'on attendait d'eux et qui se sont menti, qui ont menti aux autres, qui se sont enfermés dans une forme, oui, de clandestinité, de silence. Voilà, c'était le drame évidemment qui était par exemple au cœur de Arrête avec tes mensonges, c'est-à-dire que moi j'étais amoureux de quelqu'un et j'avais envie de vivre ça au grand jour. Et l'autre ne voulait pas vivre l'histoire au grand jour, et l'autre décide de s'enfermer dans le silence, dans la clandestinité, dans le déni, dans la honte, dans le mensonge, jusqu'à en mourir, jusqu'à sauter la vie à la fin. Bon, et donc il y a cette idée-là, c'est parce que il peut pas assumer cette vérité-là, parce qu'il n'a pas les moyens de le faire, parce qu'il croit que ça détruit trop de choses s'il y va. Et donc cette question-là, elle est une question fondamentale. C'est qu'est-ce qu'on cache de soi, qu'est-ce qu'on censure de soi pour essayer de faire plaisir aux autres ou pour ne pas avoir mal soi ou pour ne pas faire de mal aux autres. Bon. Et c'est beaucoup dans mes livres, ça. Parce que, oui, ça fait partie des choses qui m'ont, moi, aussi traversé, bien sûr.
Est-ce qu'aujourd'hui, d'avoir écrit ce livre-là, vous avez l'impression que c'est atténué, que c'est l'angoisse de trouver sa place ou peut-être le questionnement?
Oui, parce que enfin, en tout cas... Moi, sur un plan personnel, j'ai le sentiment d'avoir trouvé ma place. Ça y est. Enfin, je veux dire, cette question-là, je crois que je l'ai à peu près réglée. Elle a été une question fondamentale pendant des années, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Dans le domaine de la sexualité, bien sûr, dans le domaine de l'écriture. Enfin, voilà, c'est quoi ma place dans ça? Bon, dans ce qu'on fait de ça, dans l'occupation du temps, quelle est la place qu'on occupe, dans le lieu dans lequel on vit, quel est le lieu qu'on choisit, bon, dans la trahison qu'on fait aussi de ses origines. C'est-à-dire que moi, je suis là le prototype absolu de quelqu'un qui s'est éloigné, qui s'est arraché à ses origines. Donc, quand on s'arrache à ses origines, ça veut dire qu'on les trahit d'une certaine manière, en tout cas qu'on les met à distance. Et qu'on oublie, ou en tout cas qu'on n'est plus à l'endroit d'où on vient. Bon. Voilà, j'ai mis du temps à trouver, mais ça y est, je crois. Moi, enfin, en tout cas, je suis tranquille avec ça aujourd'hui. Mais en même temps, je pense à tous ceux qui, eux, ne l'ont pas trouvé, cette place, ou qui la cherchent encore. Je pense à tous ces hommes et toutes ces femmes qui se mentent, qui se taisent, qui se... Voilà. Parfois, je les rencontre dans des librairies, dans des salons, etc. Ils viennent raconter des choses, parce que c'est ça qui est beau aussi dans les rencontres qu'on fait, c'est que les gens viennent raconter aussi leurs difficultés à vivre ce qu'ils sont. Je pense à tout ça, à cela. En tout cas, on met du temps parfois à trouver sa place, et parfois on la trouve jamais.
Ouais. Il y a quelque chose chez vous qui est vraiment universel, dans le sens où on a l'impression que quand on vous lit, que vous portez avec vous, comme ça, mais de façon très légère, naturellement, tous les autres. En tout cas, les autres et leur vulnérabilité.
Oui, mais d'ailleurs, ça ramène à cette question du lien, etc. C'est-à-dire que moi, j'écris, je l'ai souvent dit, ceux qui sont venus m'écouter là avant m'ont entendu dire ce que je vais dire là, mais j'écris pour rendre hommage à ceux qui ont jalonné mon existence et qui ont forgé mon existence et à qui je dois d'être celui que je suis. Et il se trouve que beaucoup de ces gens-là ne sont plus là. Voilà. J'écris pour rendre hommage aux absents, pour rendre hommage aux disparus, pour rendre hommage à ceux que j'ai aimés follement et qui ne sont plus là, qui m'ont aimé, je crois, un peu et qui ne sont plus là. Et je paye ma dette. Je paye ma dette à ces gens-là parce que je sais ce que je leur dois. Et en même temps, je fais en sorte qu'ils ne soient pas que des morts, mais des vivants. C'est-à-dire, quand j'écris sur Paul Virsac, je n'écris pas sur un disparu, j'écris sur un homme qui aime, au présent. J'écris pas sur quelqu'un du lointain, j'écris comme s'il était là, comme si c'était quelqu'un que je connais, et pour lui rendre la place précisément qu'il doit occuper, et pour lui rendre la vie qu'on lui a volée, ou qu'il s'est volé lui-même. Bon. Donc, je crois à ça. Je suis très soucieux de parler de cela. Cela, c'est EX, trait d'union est là, ou celle-là. À chaque fois que je me mets à la table d'écriture, c'est en souvenir quasiment de quelqu'un dont j'ai croisé le chemin ou qui a croisé le mien et dont je pense que la vie mérite d'être racontée. Dans le destin mérite d'être dit à un moment ou à un autre, même si je romance, même si je transporte, même si je transforme, même si je déporte, même si tout ça. Bon. Mais voilà, donc je paye ma dette, oui. Je paye ma dette à ceux qui ont fait que je suis là.
De qui tenez-vous cette loyauté?
Alors peut-être que ça... peut-être que ça, je le dois à mes parents et mon père, peut-être, bizarrement. Je pense que mon père est quelqu'un qui m'a appris ça, qu'on devait avoir une forme d'honnêteté intellectuelle, de loyauté, en tout cas qu'on devait pas oublier d'où on vient, ceux à qui on doit des choses, etc. Donc je pense que c'est un produit de mon éducation. J'ai été élevé dans ces valeurs-là, qui étaient les contraires de l'égoïsme ou je sais pas quoi. C'était au contraire l'idée d'une forme d'altruisme et de souci de l'autre et de goût de l'autre et de goût des autres. Donc je pense que mes parents m'ont beaucoup éduqué dans ça, et mon père en particulier, alors que pourtant c'était un homme austère et tout ça, et c'était un hussard noir de la République, c'était un enseignant. Donc je lui dois ça. Et puis après, encore une fois, les hasards de la vie, comme je l'ai souvent dit, ont fait que bon, j'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie. Et à partir de là, je me suis senti un devoir. Je me suis dit, je porte tout cela qui ne sont plus là, je les porte. Je les porte, mais je suis heureux, hein, ils sont encore là. C'est le dialogue qu'il y a entre les deux personnages à la fin du livre, dans la scène finale, sur justement, ils sont encore vivants puisque je leur parle. Et donc oui, après vous forgez ça, cette loyauté. Moi, je suis quelqu'un de loyal, je suis quelqu'un de très fidèle.
Vous dites souvent hein, que c'est votre père qui vous a poussé vers l'écriture, en tout cas les livres. Mmh. Votre mère vous a plutôt poussé vers la vie.
Oui.
Aujourd'hui, là, en fait, on est avec vous et puis on parle finalement de loyauté aussi à cet endroit-là. Et l'humour, qui est-ce qui vous l'a transmis?
Ah.
Puisque nous sommes dans votre famille avec ce livre, profitons-en.
Alors je ne sais pas, parce que mon père n'était pas quelqu'un de très drôle, c'est seulement qu'on puisse dire. Ma mère était très drôle, mais involontairement. C'est ça. C'est un personnage qui était comme ça, enfin, qui est toujours... C'est un personnage qui... Il y avait une fantaisie chez ma mère que j'ai beaucoup aimée. C'est-à-dire c'était comme une espèce de chose très légère, très... comment dirais-je Je disais parfois, je pense qu'il y avait des années, elle savait même pas en quelle classe j'étais. Elle savait que j'allais à l'école, mais voilà. C'était comme si elle laissait la matérialité aux autres. Elle était dans une forme de chose comme ça, très, très suspendue. Et donc, elle m'a appris l'insouciance, la légèreté, la frivolité, le je sais pas quoi. Et puis, c'était avec elle que je jouais. La phrase, enfin, le livre Arrêtez que tes mensonges, le titre Arrêtez que tes mensonges vient d'une phrase qu'elle prononçait quand j'étais enfant, parce que j'adorais lui raconter des histoires épouvantables. Je disais des trucs totalement faux, évidemment, mais j'y mettais tellement de vraisemblance, j'ajoutais tellement de détails précis que ça finissait par être vraisemblable, ça finissait par être plausible.
Par exemple.
Sauf que je disais que j'avais des messieurs qui m'avaient emmené dans des voitures avec eux, comme ça, pour m'emmener dans des forêts, pour me raconter des histoires. Bon, très bien. Tout à fait, les mères ont envie d'entendre. Mais c'était très précis.
Et elle marchait.
Je racontais la couleur de la voiture, que le siège était en sky, que le pull du monsieur m'avait un peu gratté. Donc c'était horrible. Parce que c'était tellement précis que ça finissait par être plausible. C'était pas, je disais, ah oui, un monsieur comme ça. Je disais, non, il avait des lunettes en comme ça. Bon. Et donc, c'était horrible pour elle. Et donc, je voyais que ça marchait. Je voyais qu'elle était horrifiée. Et donc je me disais, c'est bien si on croit à mes histoires. Alors, il y a des trucs qui étaient plus légers, hein, mais enfin, souvent, c'était épouvantable quand même. Et donc, j'ai fait ce jeu avec elle longtemps. Et donc, elle disait arrêtez avec tes mensonges pour se débarrasser de sa peur. Hein. Voilà.
Premier cobaye littéraire, en fait.
Oui, c'est à elle que j'ai raconté mes premières histoires. Et j'ai souvent dit ça aussi. C'est-à-dire que, du coup, quand j'ai écrit mon premier livre, elle était tellement habituée à ce que je raconte n'importe quoi, que je mente tout le temps, que quand j'ai donc écrit mon premier livre, je savais pas comment l'annoncer à mes parents que j'avais écrit un livre, parce que vraiment, je savais que ça allait créer une sorte de petite commotion quand même. Et donc, je leur ai offert le livre à Noël. Vous voyez, une semaine avant qu'il sorte en librairie.
C'est quand même le sens de la mise en scène.
Ah oui, oui. C'est-à-dire que le livre devait sortir le 2 janvier, donc le 25 décembre. Je savais quand même depuis 8 mois que j'allais publier un livre. Le livre était sorti de l'imprimerie depuis le début du mois de décembre. J'avais donc eu quand même largement le temps de leur dire. Quand même. Vous voyez, c'est pas le temps qui m'avait manqué, mais sauf que je ne leur avais toujours pas dit. Et donc, quand même, au dernier moment, parce que je me suis dit, ils vont rentrer dans une librairie en janvier, ils vont trouver un livre écrit par Philippe Besson, ils vont peut-être, ça va peut-être, bon, ils vont dire un indice. Bon. Et donc, je me suis dit, il faut quand même qu'ils ne soient pas les derniers prévenus. Et donc, je leur ai dit une semaine avant que le livre sorte en librairie. Et donc, mon père était totalement accablé. Et ma mère a tenu le livre entre ses mains en disant « Mais non, c'est une blague, c'est un faux livre !» Évidemment, ça doit être écrit en latin à l'intérieur, vous savez, comme les trucs qu'on fait. C'est n'importe quoi, c'est faux, enfin, c'est une de ces blagues. Ils n'y croyaient pas du tout.
Et vous avez pensé quoi à ce moment-là?
Ah ben, qu'ils réagissaient exactement comme je pensais qu'ils allaient réagir. Ah oui, c'était très prévisible, leur réaction. Et donc, voilà. Et c'est assez marrant parce que... Et ma mère s'amuse toujours de ça. Par exemple, j'ai écrit un livre il y a très très longtemps qui s'appelait Les Jours Fragiles, qui parlait de Rimbaud, qui parlait des derniers mois de la vie de Rimbaud. Et donc, Arthur Rimbaud passe les derniers mois auprès de sa sœur Isabelle. Et il y a également un autre personnage qui est dans le livre, qui est la mère de Rimbaud. Et la mère de Rimbaud, qui n'est pas un personnage très sympathique, quand même, c'est moins qu'on puisse dire. Donc j'avais un peu chargé la mule. Bon, j'avais pas besoin de la charger beaucoup parce qu'elle est vraiment odieuse. Et donc le personnage de la mère dans le truc. Hein. Et ma mère me dit un jour, tu sais que les gens viennent me voir en me disant, qu'est-ce qu'il est méchant comme avec vous dans les livres. Hein. Parce qu'ils pensent que c'est moi le qui a inspiré le personnage de Vitaly Rimbaud. Je dis petite, c'était ma pour toi. D'ailleurs. Et donc voilà, mais elle prenait ça avec beaucoup de ça l'amusait beaucoup. Et elle avait fini par prendre beaucoup de distance par rapport à ça. Et de la même manière, elle mettait beaucoup de temps à lire mes livres. C'est-à-dire que mon père lisait les livres en général dans la demi-heure où il avait le livre entre les mains, il le lisait. Et après, il me faisait un compte-rendu en disant « ça manque de points virgule bon. ». Et voilà. Et ma mère, quand même, au bout de 6 mois, je disais « mais tu penses le lire à un moment ?»« Enfin, oui, oui, je trouverai sans doute un moment. » Bon. Et donc, elle le lisait, et voilà.
Et pourquoi, selon vous ?
Je pense que c'était sa façon aussi de prendre de la distance par rapport à ça et de ramener tout ça à la dimension de « je », J-E-U. C'était elle, voilà, elle était comme ça et moi aussi, donc ça me plaisait qu'elle mette du temps à les lire. Je trouvais ça marrant.
Ouais. Et selon vous, ces livres-là auraient
non, mais pareil. Non, mais c'est
et sur les autres personnages qui sont dans ce livre,
non, mais parce qu'il y a l'idée que elle a en fait, elle a plus été surpris par les choses qu'elle a découvertes. Par exemple, quand elle a lu Arrête avec tes mensonges, donc elle a tout reconstitué évidemment après coup, et donc elle dit qu'elle n'avait pas compris l'histoire d'amour, évidemment qu'elle n'avait pas vu, elle savait qui était Thomas Andrieux, ça. Elle l'avait vu passer dans son champ de vision. Il y a d'ailleurs une scène où on a failli voir beaucoup mieux que dans son champ de vision, d'ailleurs. Et l'idée c'est que elle m'a dit ça, elle m'a dit j'avais pas vu, et donc elle avait une forme de culpabilité rétrospective. En se disant, quand même, j'aurais dû voir, moi, ta mère, j'aurais dû voir. Et je lui disais, mais c'est non. Et donc, parce que je m'arrangeais pour cacher, justement, pour mentir. Je mettais suffisamment d'écrans de fumée pour qu'elle ne puisse ne pas voir, même elle. Et donc donc parfois, elle était troublée par ça, par le fait qu'elle aurait dû voir et qu'elle n'avait pas vu. Mais tout va bien.
Et quand vous écrivez aujourd'hui, ce sera ma dernière question, Philippe Besson. Quand vous écrivez aujourd'hui, vous pensez encore à ce jeu avec votre mère dans votre
écriture ? Je pense toujours. Non. Ça n'arrive qu'à la fin. C'est-à-dire, je pense au jeu avec le lecteur, ça oui. Il faut pas penser justement. Il faut pas penser à la réaction de ses proches, de mes parents, de. Voilà, il faut pas penser à ça. Pour le coup, il faut s'en abstraire. C'est important de se dire j'écris dans une totale liberté, dans une totale irresponsabilité d'une certaine manière. Je dois pas me dire comment il va prendre cette phrase là, comment elle va prendre cette scène là, est-ce que etc. Parce qu'on se met à nu quand on écrit un livre, on dit des choses qui sont quand même parfois très impudique, mais les lecteurs ne nous connaissant pas comme nos proches, eux ne voient pas forcément cette dimension d'impudeur, mais nos proches, eux, évidemment, la voient. Et donc, effectivement, il y a cette chose-là qui est qu'on se dit, bah, peut-être les gens vont être un peu bousculés par ce que je raconte, et en fait, il ne faut pas y penser. Donc moi, je ne pense pas à la réaction de mes très très proches, de mes intimes, je fais abstraction de ça.
En écrivant celui-là?
Oui, bien sûr, mais tous mes livres, je ne veux pas y penser, parce que sinon, justement, vous vous censurez, vous faites attention, et en fait, quand on écrit un livre, il faut pas faire attention, il faut y aller. Souvent, les gens me disent ça, ils me disent quel conseil vous me donneriez, moi qui cherche à écrire, et je leur dis ne soyez retenus par rien, ne vous censurez jamais, ne vous interdisez rien. Ne pensez pas à l'après. Soyez uniquement dans l'instant de l'écriture, soyez dans l'histoire que vous voulez raconter, soyez avec les personnages, soyez dans votre géographie, mais ne voyez pas le monde autour, ne regardez pas ce qui va arriver après. C'est pas ça. Sinon, vous allez vouloir plaire, vous allez faire des compromis, vous allez... Voilà, pas du tout. Il faut pas chercher à plaire ou à rassurer, il faut pas chercher à... Non, faut y aller... C'est l'exercice d'une liberté incroyable, le moment de l'écriture. On crée un monde, et donc il faut rien s'interdire, il faut tout s'autoriser.
C'est merveilleux comme conclusion pour vous, Philippe. Voilà. Merci à vous.
Merci.